risque et qui empêche un dialogue judéo-chrétien, qu'un dialogue judéo-chrétien à ce niveau puisse débuter et être fécond, c'est la personne de Jésus-Christ et son identité telle que les chrétiens la considèrent. Quelles que soient les différences qui pourraient exister entre l'Église chrétienne elle-même. Voilà. Ce débat entre l'Église chrétienne elle-même et ce débat dès l'origine est dans une impasse absolue. Étant donné la problématique suivante. Voilà. Alors après, je corrige sur votre texte. Ou bien ce personnage historique que les chrétiens nomment Jésus-Christ est l'incarnation du Créateur de l'univers contemporain, auquel croit Israël. Pas croyez. Croit Israël jusqu'au moment de l'apparition du christianisme, ou bien il s'agit d'un fondateur de cette religieuse sur lequel a été projetée une théologie de type païenne ou de type païen ? De type païen.
Une théologie ?
Une théologie de type païen.
Oui, c'est le type qui est païen.
Non, on va mettre d'essence païenne. Parce qu'effectivement, si le postulat du judaïsme, c'est qu'on refuse la notion d'incarnation, on la refuse parce que c'est pas bien. C'est clair.
Quand vous mettez la scène, vous prenez du sucre dans le thé ?
Jamais.
Jamais. Je me suis douté. Oui.
D'essence païenne. Je vais dire projeter une théologie d'essence païenne selon la conscience juive. Alors là, c'est vous qui ajouterez que la religion à sauveur, et puis vous donnerez au moins un exemple.
D'accord. Hein.
Il est préférable de prendre le point de départ de l'exposé du point de vue. Judaïsme sur la question, hein, très bien. Sur la question, voilà, le postulat c'est pas du bon français.
Non, c'est pas du bon français, c'est du langage parlé. Hein. Et,
il est préférable de prendre comme postulat de l'exposé, hein, plutôt que point de départ. Non, il faut un point de départ, on vous a rendu.
Oui.
Et que le phénomène historique. Non, pas qu'il va faire plus de dire que le phénomène historique. Je prends jusque-là.
Hein? D'accord.
Voilà, j'enregistre à partir de là. Voilà. Mettez-le plus près de moi, peut-être, parce qu'il semble. Voilà. La position que je voudrais présenter à ce sujet est que s'il s'avère que les chrétiens arrivent à entreprendre tout ça pour d'épurer cette figure de médiateur auquel ils croient, le personnage historique à proprement parler ne ferait plus problème. Il reviendrait à être le fondateur d'une secte parmi les autres sectes du judaïsme du temps du deuxième temple, celle qui a pris cependant un développement historique ultérieur considérable, pour des raisons que le judaïsme se doit, dont le judaïsme se doit de rendre compte du point de vue de la foi, et pas seulement sur un plan historique ou sociologique. C'est clair. Cette secte a donné naissance à la chrétienté à la suite d'un changement radical de la notion d'alliance, là je veux dire d'un changement radical des implications, de la signification de la notion d'alliance, telle que celle-ci était exposée dans l'Ancien Testament. Cette alliance concernait la nation d'Israël, alors que selon les chrétiens, elle concernera désormais des membres d'une église qui n'ont plus à faire partie du peuple d'Israël. Et alors là, vous mettez une note, qu'il faut noter le changement de sens que la notion de peuple d'Israël prendra dans le vocabulaire chrétien lorsqu'elle est appliquée à l'Église. Alors que dans l'Ancien Testament, il est indéniable qu'il s'agit d'une identité nationale. Et d'ailleurs, nous reviendrons sur ce point. C'est donc ce point qui doit être élucidé dans la perspective suivante. Un juif croyant ne saurait admettre qu'un événement aussi considérable se soit développé hors du regard de la providence divine. Aussi, la question se pose ainsi. Y a-t-il dans la tradition juive antérieure aux faits historiques de la chrétienté des schémas explicatifs sur les deux points suivants? Que signifie le fait que des hommes qui ne sont pas membres du peuple d'Israël tel qu'il est défini par la Bible se réclament du nom et de l'identité d'Israël? Deuxièmement, comment comprendre qu'une telle réalité ait eu pour, qu'un tel fait, je crois au bon gré, ait eu pour origine les Juifs eux-mêmes, c'est-à-dire les premiers chrétiens? Alors là, il y a cet incident. D'un point de vue, ça vous développerait quand même. D'un point de vue de psychologie de communication, il est bien évident que les chrétiens ne peuvent négliger le fait que les juifs ont un problème analogue avec un autre ensemble humain considérable, qui est l'islam, et que par conséquent, il se présente aussi une autre prétention de rivalité par rapport au peuple d'Israël. Il s'agit d'un problème triangulaire. Là, vous le reformulez. Pour dire ceci, que notre dialogue ne sera pas quand même clarifié tant qu'il ne tient pas compte aussi de l'autre dimension. Est-ce que c'est
clair? Oui, ça je le dis d'ailleurs, enfin je le reformulerai bon. Tout au moins en récapitulation avant le chapitre consacré à tout.
Voilà. Alors, c'est là que commence l'exposé. Ça c'est une introduction. Hein. Vous mettrez introduction, position du problème. Alors, premier point, vous trouverez un titre. Ce qu'il faut découvrir, c'est que le récit de l'histoire d'Israël depuis les origines enferme deux dimensions différentes de la problématique messianique. Le récit historique du Pentateur, le récit historique contenu dans le Pentateuque, entre parenthèses la loi de Moïse, le livre de la loi de Moïse, en particulier tout le livre de la Genèse, a précisément pour objet de le mettre en évidence. D'une part, la dimension du messianisme relié à l'universel humain, et dont le lieu est la dimension exil diaspora d'Israël. D'autre part, une dimension proprement nationale, dont le lieu est l'histoire de la nation d'Israël, défini comme peuple de prêtre et nation sainte, et vous mettez le...
Oui, je l'ai combien en dessous, non?
Oui, chapitre 19, mais vous voulez qu'on la trouve tout de
oui,
suite?
Oui, ça je l'ai retrouvé.
Ça vous pouvez la trouver. Hein. L'objectif du récit du Pentateuque est d'établir de façon irréversible une option pour la deuxième stratégie. Bon, ça c'est le français qui va pas.
Oui.
Messianique tout en expliquant la première, mais en la disqualifiant.
Oui, hein, c'est le langage parlé, je l'ai repris.
Oui. Bon, d'accord. Mais ça, vous avez compris l'idée.
Oui, c'est surtout sur le fond qui se...
Voilà. Et là, et la deuxième pensée. Très bien. Alors, on ne peut pas ne pas remarquer que l'histoire d'Israël commence par le récit de l'histoire d'Abraham, qui est très exactement le récit d'une sortie d'exil. Alors on commence par là. Okay. Voilà, vous arrêtez. Du récit d'une sortie d'exil. Alors, je vous donne les références. Je dicte. Hein. Mm-hmm. Abraham est nommé dans la Genèse Abraham l'Hébreu. C'est chapitre 14, verset 13. La généalogie d'où procède Abraham est dite et comptée, enfin, et est donnée explicitement en préface à la sortie d'Abraham d'Ur Casdim au chapitre 6. Chapitre 11 de la Genèse.
Vous avez les versets.
Oui, oui. Abraham est un descendant de Éver. Ça s'écrit en français E-V-E-R avec une apostrophe devant le premier E. Éver. Okay. Mm-hmm. Éver. Genèse, chapitre 11, versets 14 et 15. Versets 14 et 15. Ce qui établit de façon directe l'identité national d'Abraham, mettant en note la raison pour laquelle il y a changement à noter, il y a changement du nom d'Abraham à partir d'Abraham, sera étudié d'autre part, et je crois que vous avez un schéma,
oui.
Sera étudié d'autre part, et vous mettrez la référence par là. Les Hébreux, alors vous reprenez tel, les Hébreux sont les descendants de Éver et Abraham en fait partie. Or, il est situé dans le récit, fin du chapitre 11, Casdim, région de la Mésopotamie, d'alors, vous mettez en parenthèse vos notes, et ça vous vérifierez sur les cartes que vous donnerez d'ailleurs, approximativement aujourd'hui, la frontière entre l'Irak et le Koweït. Bon. Cependant, le pays d'Israël nommé dans la contemporanéité de la Genèse le pays de Canaan parce qu'occupé par les envahisseurs, les Cananéens, est en réalité défini pour lui-même par la Genèse comme étant le pays des Hébreux. Là, vous soulignez, vous mettez entre guillemets le pays des Hébreux. Et alors, je vais vous donner tout de suite la référence. Et là, vous mettrez comme un encart d'illustration. Mmh. Parce qu'après, je reprendrai l'histoire d'Abraham. Mmh. Vous mettez une limite. Genèse. Verset 15.
Et c'est Joseph, j'ai été, c'est ça, c'est la vision de Joseph.
Oui, alors vous mettez, lorsque Joseph est emprisonné en Égypte à la suite de l'épisode de la femme de Potiphar, et qu'il intercède auprès du ministre du pharaon, entre nous mettons en parenthèse les chansons, il dit très exactement ceci: car j'ai été volé du pays des Hébreux. Ce verset indique que dans la culture de l'époque, le pays de Canaan est bien connu et est connu par les ministres du pharaon comme étant le pays des Hébreux. Or, il n'y avait comme hébreu à cette époque en Canaan que Jacob et ses fils. Ceci établit clairement que les Hébreux se trouvaient en exil en Chaldée. C'est la fin de l'encart. Hein, la fin de l'encart. Et on reprend. Vous dites la dernière phrase d'avant la fin de l'encart.
Le pays de Canaan, parce qu'occupé par les envahisseurs des Cananéens, est défini comme le pays des Hébreux. Non. Cependant, le pays d'Israël, nommé dans la contemporanéité de l'âge. Attendez. Les Hébreux sont les descendants de Héber et Abraham en fait partie. Or, il est situé dans le récit, fin du chapitre 11, à Ur-Kazim, région de la Mésopotamie d'alors. Cependant, le pays d'Israël, nommé dans la contemporanéité de la Genèse le pays de Canaan, parce qu'occupé par les envahisseurs, les Cananéens, est défini comme le pays des Hébreux.
Là commence la parenthèse, hein?
D'accord.
Le pays des Hébreux. Le pays des Hébreux. Ce qu'il est important de signaler.
Oh, pardon, je vous arrête. Dites-donc qu'il y avait ça au dos de la feuille. C'est pas grave.
Ce qu'il est important de signaler, c'est l'ordonnance de la fin du chapitre 11 et du début du chapitre 12 à ce sujet. Alors, vous mettez une citation en encart. Mm-hmm. Je Genèse 11, 31. Et Terach prit Abraham son fils, ainsi que Lot, fils de Haran, un H, sans accent, son petit-fils, virgule, et Sarai, sa bru, virgule, femme d'Abraham, son fils, virgule, et ils sortirent avec ensemble de Ur-Kasdim pour aller au pays de Canaan. Au pays de Canaan. À ce moment du récit, à ce moment du récit, aucune révélation à Abraham, entre parenthèses, nommé encore Abraham.
Oh, je sors deux minutes acheter du sucre, tu as besoin de rien.
Le mari.
Mari.
Nommé encore Abraham. Reprenez depuis la phrase.
À ce moment du récit, ou la phrase d'avant.
Non, là, à ce moment
du récit, aucune révélation à Abraham, nommé encore Abraham,
ne lui indique où il devait aller. Ensuite, chapitre 12, verset 1. Et Dieu dit à Abraham, va pour toi de ton pays, de ta terre natale et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Ça, c'est les citations des versets mettent un autre caractère.
Oui, toujours.
Ce pays n'est pas indiqué. Ce pays n'est pas indiqué. Verset 5, chapitre 12, verset 5. Et Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, son neveu, et toutes les possessions qu'ils avaient faites, là, je vous donne une traduction directe,
une minute,
de ce verset.
Chapitre 12, verset 5.
Voilà, Abraham prit Sarai, son épouse, Lot, fils de son frère, et tous les biens et les gens qu'ils avaient acquis à Haran. Ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan.
Ils avaient acquis
à Haran. Un point. Ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Il est clair qu'Abraham n'avait pas besoin de savoir par révélation particulière où il devait aller. Comme cela est indiqué à la fin du chapitre 11, quitte le pays et la civilisation dans laquelle il se trouvait, pour rentrer chez lui, la terre des Hébreux, nommée en ce temps-là, pour les raisons déjà indiquées, le pays de Canaan. Cette remarque. Allô ? Elle est sortie. Elle me semble extrêmement importante à méditer. Le postulat habituel consiste à admettre qu'Abraham était un Mésopotamien oui, donc j'ai dit ça.
Il n'y a pas de
culture là, parce que c'est pas culture. Non, il n'y a pas de culture. Était un Mésopotamien. Et personne ne songe à expliquer par quel mystère il serait subitement, magiquement, devenu hébreu dans la suite du récit. Et je me souviens que dans la suite, je reprends l'identité d'Abraham l'Hébreu. Donc, on la reprendra par la suite. Ça suffit pour moi. Du verset 1 du chapitre 12. Vers le pays que je t'indiquerai. On reprendra la même traduction. Vers le pays que je t'indiquerai, puisqu'il est bien évident, d'après l'exposé précédent, qu'il n'y avait aucune nécessité de désigner à Abraham le pays de Canaan. Cette question est étudiée dans le Midrash Rabba sur chapitre 2, etc., sur le verset 2 du chapitre 22. Et il dit, prends donc ton fils, ton unique, et prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, et va vers la terre de Moria. À ce sujet, on trouve dans le Midrash Rabba Rabbi Lévi, Bar Haïta enseigne. Il est écrit deux fois « Va pour toi » entre parenthèses « Lech Lecha » « Lech Lecha » et nous ne savons pas laquelle de ces deux fois, enfin on marche à ça, Dieu préfère, la première ou la seconde. Par le fait on apprend que c'est la deuxième qui est préférée. Ce texte du Midrash signifie donc que la révélation de Dieu à Abraham à sa sortie d'Ur Kasdim est une petite note en bas, note dans la note si vous voulez. Certains commentateurs pensent qu'elle a lieu plus précisément à Haran, alors on revient, n'a pas pour objet de lui indiquer, comment on peut dire, enfin, de lui indiquer son itinéraire,
sa
destination, mais que la sortie de son exil le mener à Moria, au Mont Moria. Mont Moria, lieu de l'épreuve, dite du sacrifice d'Isaac. Voilà, c'est plein, c'est plein de choses, ça. Ça veut dire que le fait qu'Abraham quitte l'exil, c'est une décision d'Abraham. Et Dieu se révèle à lui pour lui dire que sa sortie d'exil n'est habilitée que s'il surmonte une épreuve, et tu verras où. Et il ne lui désigne pas Canaan, je sais que tu vas à Canaan, mais tu vas aller jusqu'à l'endroit où je me révélerai à toi, et c'est le Mont Moria. Vous voyez, c'est insoupçonnable dans les traductions françaises. Insoupçonnable. Vous pouvez mettre une note personnelle.
Oui.
Mettez une note personnelle. On ne veut pas ne pas remarquer qu'une telle lecture est insoupçonnable pour qu'il ne dispose que des traductions chrétiennes. Voilà. Comme ça, votre lecteur sera satisfait de l'objection éventuelle. Vous remarquez un incident que montre. C'est difficile de trier ce qu'on a à dire devant un auditoire qui n'est pas dans le pays. Alors tout le monde pense que ça va de soi, ça veut dire va à Canaan. Mais pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, tu sors d'exil, alors sache que tu vas aller jusque-là, jusqu'à l'endroit où je me révélerai à toi. Et Dieu se révèle à lui pour l'éprouver.
Mais parce qu'en définitive, ça il faut l'apprivoiser petit à petit, le texte du Tanakh est toujours multidimensionnel. C'est-à-dire qu'effectivement, ça a un sens.
C'est-à-dire, si on a en tête ce qu'un hébreu est censé savoir de sa mémoire, c'est clair. Vous comprenez ?
Oui, bien sûr.
C'est un texte qui parle aux Hébreux.
Finalement, par un véhicule qui a un sens en lui. C'est pas un sens bien intéressant, c'est un sens anecdotique. Mais par ce sens anecdotique, si on a la mémoire, alors là, on voit les perspectives. Mais ceux qui n'ont que le sens anecdotique, on se demande pourquoi ils s'accrochent à ce texte, d'ailleurs.
Dire, le génie des fondateurs du christianisme, c'est de les avoir pris au piège, comme vous avez dit, en disant, vous savez, attention, c'est la parole de Dieu, la bonne oui. Oui. Et à un certain moment, on parlera de cela. C'est que l'épisode du marcionisme, qui voulait que les chrétiens abandonnent l'Ancien Testament, est significatif.
Finalement, il était plus logique.
Oui.
Je pense qu'il est plus logique que
lui. Oui. C'est-à-dire que ce qu'il faudrait noter ça dans notre mémoire, c'est que très souvent les juifs contemporains dans le dialogue avec les chrétiens se demandent s'ils ont affaire à des marcionistes ou à des chrétiens. Mmh. Oui, ce que je veux dire.
Mais en réalité, beaucoup de chrétiens sont marcionistes sans le savoir.
Voilà, c'est ce que je veux dire.
Oui, oui.
C'est ce que je veux dire. Voilà. Alors, ceci nous mène à une première donnée d'étude. Ça, c'est vous qui arrangerez les premières et les deuxièmes. Et comment comprendre le fait que l'histoire d'Israël débute par une sortie d'exil. C'est vrai, c'est le cas au niveau du commencement de l'histoire des patriarches avec Abraham. C'est aussi le cas au commencement de l'histoire d'Israël comme nation, au temps de Moïse, à la sortie d'Égypte. C'est le cas de notre temps, on va ajouter ça, avec le commencement de l'histoire de l'État d'Israël, après 2000 ans de diaspora. Avec le commencement de l'histoire présente de l'État d'Israël, après 2000 ans de la diaspora que l'on sait. Bon, là on va faire une petite interruption parce que je vais dialoguer avec vous avant d'enregistrer. C'est pas Attendez, je vais l'histoire de la famille d'Abraham est en ce sens l'histoire d'une famille des Hébreux rescapée de la civilisation d'Ur-Kasdim. Cela indique clairement que nous avons le paradigme d'une question permanente de l'histoire d'Israël. Les diasporas juives suivent toujours les lignes de développement des civilisations dominantes de l'universel humain. Dès l'origine, les Hébreux se trouvent dans la situation dominante du temps, Babel, la Babel antique, et point. Alors là, vous ouvrez un encart. En fait, l'exégèse talmudique élargit ce fait à tout le récit de l'histoire humaine dès la première tentative de civilisation de Adam à Noé. Nous allons citer brièvement un texte qui indique que la problématique Israël, les nations, telle qu'elle deviendra historique, à partir de la sortie d'Égypte, à partir de la charte, à partir de la charte assignée par la Torah à Israël dès la sortie d'Égypte. Et vous reprenez le verset du chapitre 19, et vous serez pour moi un peuple prêt et nation sainte. Se trouve préfiguré dès les premières générations de l'histoire humaine. Selon le récit biblique, deux lignées différentes procèdent du premier homme. La lignée de Caïn et celle de Seth.
Oui, mais dans le, c'est là qu'il y a les fils des hommes et les fils.
C'est ça, oui. Là, vous reprendrez ce texte. Est décrit comme constituant la civilisation humaine, la civilisation de l'universel humain, celle de Seth, comme constituant une lignée sacerdotale destinée à comment ramasser en une phrase
réaliser le plan de Dieu là.
Non, destiné à une lignée sacerdotale destinée à prendre en charge l'état moral de cette civilisation pour l'orienter vers le projet de la Providence pour l'idéal humain. Que procédera Noé à la dixième génération génération, je vais vous citer le verset qui va dans ce sens-là. Vous avez arrêté, c'est dommage que ayant vécu 182 ans, engendra un fils. Il énonça son nom, Noé. C'est mal traduit parce que Vaïkra, c'est Dieu qui le nomme Noé. Bon, en disant. Il énonça son nom. Je vais prendre cette traduction-là toujours.
Il énonça son nom.
Noé. Mm-hmm. En mettant en parenthèse noir en hébreu. Mm-hmm. Peut-être l'inverse, mettez noir et en parenthèse Noé. Mm-hmm. En disant, de quoi puisse-t-il nous consoler de notre tâche et du labeur de nos mains, causé par la terre maudite par Dieu. Ce verset montre à l'évidence que Noé est nommé dans une catégorie messianique du Sauveur. C'est clair, hein?